Rav Hashek, mes frères, mes sœurs et moi, nous savons que nous sommes de la génération de Dieu. Parce que nos cœurs aspirent à être de la génération de Dieu. Parce que nous proclamons Christ et que nous demandons au Saint-Esprit tous les jours de nous révéler la parole de Dieu, de nous éclairer, de nous conduire, de nous révéler là où nous faisons des erreurs, de nous faire comprendre le sens de Dieu et de nous faire saisir la quintessence de la parole de Dieu, obéir, mettre en pratique. Alléluia. Afin d'être vraiment en Christ, dans le royaume de Dieu. Amen. Havashek. Quand nous avons écouté, vu tout ceci, mes frères, mes sœurs, méditons un peu, parlons un peu nous-mêmes. Est-ce que les termes que nous venons d'expliquer là, est-ce que la compréhension que nous avons de ça, quelque part nous semble être les méthodes divines, quelque part nous semble être les méthodes de Dieu? Forcer les portes, forcer pour entrer, arracher, ravir, s'emparer égoïstement, garder pour soi. Est-ce que ce sont les méthodes du Christ? Ça nous semble être la conduite de notre Seigneur. Assaillir un lieu où tu n'es pas invité à entrer. Occuper de force un territoire qu'on ne t'a pas donné. Un lieu est sous condition. Toi, tu vas seulement faire forcer et tout n'a pas rempli les conditions. Non. Dieu ne nous a pas enseigné ça. Je ne pense pas que ce soit ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Ou que Jésus-Christ, notre Seigneur, a pris le temps de nous enseigner dans la parole. Lui-même, Jésus-Christ, lui-même qui est la quintessence de la vie, il dit, me voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entre. Est-ce qu'il a forcé une porte pour entrer? Nous parlons de celui qui incarne le royaume de Dieu. Il incarne le royaume de Dieu. Il te dit, je frappe à la porte, tu ouvres, j'entre. Ah. Nous connaissons la notion des portes ouvertes et des portes fermées de Dieu. Il dit, une porte que j'ai fermée, c'est fermée. Une porte que j'ai ouverte, c'est ouverte. Personne ne peut agir sur ces portes. Il dit, je suis la porte des brebis. Qui peut seulement vouloir forcer la porte? Il nous enseigne aussi que quand les choses doivent bien se passer, tu passes par la porte pour entrer. C'est les voleurs, les brigands qui cherchent d'autres voies et moyens pour passer. Quand la porte est fermée, tu vas où? Ne force pas la porte. Celui qui veut forcer la porte, c'est un brigand. C'est les voleurs. C'est les violents. Il nous a enseigné, nous avons vu et nous allons encore le revoir tout à l'heure, à ses apôtres, quand il les a envoyés. Il dit, là où on vous reçoit, vous entrez, là où on ne vous reçoit pas, vous enlevez la poussière de vos pieds et partez. Qui force? Dans le royaume de mon Père, dans le royaume des cieux, on ne force pas. On ne force pas parce qu'il n'y a même pas lieu de forcer. Jésus qui, notre Seigneur Jésus qui incarne ce royaume, qui invite, il dit, je suis la porte, viens, je t'appelle. Donc il ne s'agit pas de forcer, il s'agit d'accepter de lui prendre la main et de passer par la porte qu'il est, en dans le royaume, voilà, c'est ouvert. Mais dans ce cas, de quoi voulait donc il parler, notre Seigneur Jésus? Parce que ce verset de Matthieu 11, 12, c'est lui qui l'a exprimé. De quoi voulait-il parler? Repartons dans le contexte, essayons de voir dans son ensemble de quoi Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus, voulait nous parler. Parce qu'il était là pour nous enseigner. Il enseignait ses apôtres et nous, aujourd'hui, à travers ses paroles, il nous enseigne. Allons prendre la connaissance, allons prendre de l'intelligence, allons prendre de la sagesse. Alléluia. Nous nous trouvons dans Matthieu, dans son chapitre 11, lorsque le Seigneur a dit ceci. Moi, par habitude, je dis toujours, vous savez, la parole de Dieu est tout. Il s'agit d'un tout. Moi, je regarde toujours, on va regarder avant, on va regarder après, on va essayer de circonscrire l'événement qui se passait à ce moment. De quoi s'agissait-il? Parce que dans la Bible, on parle d'événement en événement pour relever certaines situations ou certains messages ou certaines instructions particulières. Et quand je suis allée regarder, Matthieu 11 commence par « Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Bon. » Je me dis, ça c'est un verset qui commence par une référence passée. Ça veut dire qu'il est dans un contexte. Et je me dis, je ne vais pas commencer à lire Matthieu 11 seul. Il faut que je sache de quelle instruction il s'agit. Il faut que je sache ce qui était l'objet de leur assise. Avant que nous n'arrivions sur ce verset, je repars donc sur le chapitre de Matthieu 10. Et Matthieu 10 commence par quelque chose de particulier. Notre Seigneur Jésus a constitué son gouvernement. Ça faisait déjà un moment que le Seigneur Jésus marchait et appelait les hommes. Mais le chapitre de Matthieu 10 nous dit que ce jour-là, dans ce contexte-là, le Seigneur Jésus a choisi, parmi les disciples qui le suivaient déjà, a choisi ses apôtres. Alléluia. Ça marque un tournant dans la venue de Jésus. Nous savons que de Matthieu 1 jusqu'à Matthieu 10, donc, on a d'autres événements qui nous sont décrits. Mais Matthieu 10 marque un tournant. Il a constitué son gouvernement. Il leur a donné des instructions de base pour fonctionner. Il les a peignées, les a oint. Et là, Dieu vous donne le pouvoir de guérir les malades, de faire ce que Dieu veut. Là, nous commençons, nous entrons, l'action est puis nous partons. Il commence à leur parler et il leur dit, vous ferez ceci, vous ferez cela, de telle façon, de telle autre façon. Lisez Matthieu 10. Il explique aux disciples comment ils vont faire quand ils vont aller vers les gens parce qu'il est déjà en train de les mettre en mission. Il les commissionne. Et il leur dit comment fonctionner. Il leur explique des choses. Il leur donne le sens des récompenses. Il a dit, vous allez rencontrer des personnes, ils auront des attitudes différentes. Vous avez de vous tous. Mais celui qui a envers vous une bénédiction de juste aura une récompense de juste. Moi, je récompense les choses qui se font. Celui qui aura une grâce, une bénédiction de verra en vous un prophète aura la bénédiction du prophète. Mais il y a aussi, et c'est ça qui est important, il y a aussi et surtout la bénédiction du quiconque qui s'attache à l'acte du quiconque et la grâce du quiconque. Il dit quiconque donne un verre d'eau à un enfant qui parle. Quiconque pose un acte. Parce que ce n'est plus une histoire. Ça ne sera pas seulement une histoire de juste ou une histoire de prophète. Ça sera que même n'importe qui, si tu le fais à mon nom, aura la grâce que moi-même, Jésus, je viens de donner. La grâce du quiconque. Alléluia. Parce qu'ils allaient rencontrer des personnes qui connaissaient la valeur du prophète. Oui. Eux disent, bon, ils peuvent agir envers vous en tant que juste. Ils peuvent agir envers vous en tant que prophète. Ils peuvent vous dire, ah, ça c'est un prophète. Moi j'ai la crainte du prophète. Moi j'ai béni le prophète. Ils auront la récompense, le prophète. Mais il y a la dimension du quiconque. Il dit quiconque. Ça veut dire que, au-delà de ceux qui avaient même déjà un peu la parole avant, n'importe quel individu. Et c'est là la dimension de Christ, l'ouverture de la porte. Ça ne concerne pas seulement la maison de Judas. Quiconque donnera un verre d'eau à quelqu'un et qu'il le donne par rapport à mon nom, recevra la grâce qui va avec celle que moi-même je déverse dans les vies. Ce sont des instructions assez particulières. Jésus commençait déjà à faire comprendre aux disciples sa dimension, l'importance qu'il peut avoir en sa personne par rapport au royaume de Dieu. Parce que le royaume des cieux est annoncé depuis les prophètes. Le royaume des cieux, c'est dans les Écritures. Ésaïe en a parlé. L'œuvre messianique était déjà annoncée. Les prophètes ont parlé de Joël. Les prophètes ont parlé d'autres personnes. Donc, ce n'était pas dans la maison de Judas, en Israël. Ce n'était pas des choses inconnues. Et ils savaient. Il savait que le royaume des cieux, j'aspirais aussi. Donc, c'est pas nouveau. Il y avait Dieu et son royaume et son peuple. Cette notion n'est pas nouvelle pour eux. Mais seulement, Jésus commençait à redimensionner les choses. Jésus commençait à repositionner les choses par rapport au nouveau gouvernement qui était. Parce que c'est véritablement le royaume annoncé qui commençait à être établi. Amen. Et les gens, il savait que les gens ne verront pas les choses de la même façon, même par rapport aux disciples qu'il avait choisis. Tous les enseignements que Jésus allait commencer à étaler là, allaient être même complètement parfois incompréhensibles pour eux. Parce que parfois c'est complètement à l'opposé de ce qu'on leur a toujours dit, toujours enseigné, ce qui semblait être écrit dans les Écritures. Mais c'était la nouvelle dimension du royaume des cieux, celle que lui, Jésus-Christ était venu établir. Poursuivons. Donc, dans Matthieu 10, voilà, il a déjà fait tout ça, il a mis en route. Et Matthieu 11 commence, on dit, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12, il dit, ah ben, hop, c'est bon, en route, c'est lancé, le mouvement est parti, le mouvement est lancé, le royaume de Dieu est en route. The new dimanche et en route. Voilà. Il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes et les pays, la dimension un peu partout. Il se passe quelque chose de particulier. Ils entrent dans leur prêche, ils font, tout le monde sait que quand Jésus parlait, il faisait des miracles, les gens l'écoutaient, les gens trouvaient qu'il parlait avec autorité, que ce qu'il disait était rempli de vie, était rempli, voilà. Il guérissait parce qu'il chassait les démons, il faisait des signes, des prodiges, l'accompagnait. Ça, la parole de Dieu dit que ça a renommé depuis les premiers passages, même Matthieu 4 ou 5, parle déjà de la renommée de Christ qui le poursuivait. C'est très important. Donc, cette renommée était allée jusqu'aux oreilles de Jean. Jean le Baptiste. Mais figurez-vous, moi j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, mais logiquement, quand il entend ça, Jean le Baptiste devrait seulement dire, oh, gloire à Dieu, je suis ici en prison, mais c'est pourquoi j'étais venu annoncer là, et en marche, et en route, et actif. Gloire à Dieu. Non. Jean le Baptiste n'a pas eu cette réaction. Matthieu 11, 2. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, Abashek, est-ce celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Voilà Jean dans sa dimension. Jésus commence le processus même du royaume de Dieu, tel qu'il doit être, incarné par lui. Celui que Dieu avait choisi pour venir l'annoncer et qui avait même parfaitement fait son travail est le premier à en douter. Il est le premier à se poser la question. Est-ce que c'est toi? Ou alors vraiment, on s'est trompé là, il faut qu'on attende un autre. Ah, je me suis dit, ah, quel est le mystère, quelle est la révélation qu'il peut avoir derrière. Et c'est dans ce contexte donc que nous arrivons à Matthieu 11, 12. Jésus ayant entendu ça, commence donc à expliquer quelque chose. Et aux disciples de Jean-Baptiste, pour répondre à Jean-Baptiste, mais surtout à ceux qui sont autour de lui. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez, ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Allez lui rapporter ça. Allez lui dire, « Les yeux, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Quand je vois tous ces mots alignés, Jésus ne dit pas des choses qui sont nouvelles. Lorsqu'il est entré dans la synagogue, lorsqu'il est sorti des eaux, il a fini son jeûne dans le désert et qu'il a commencé sa marche. La parole dit qu'il est entré dans la synagogue un jour de sabbat et on lui a donné le livre de vie et il a ouvert pour lire. Et il a lu, on a donné Ésaïe 60. Et il a lu dans Luc 4, 19, on en parle. Il a lu clairement ceci, ce qui était sa mission. L'Esprit de Dieu m'a oué pour guérir les cœurs brisés, renvoyer libres les opprimés, donner la vue aux aveugles, guérir les paralytiques, les sourds, faire tout ça, convoquer un jour de grâce, annoncer la bonne nouvelle. Annoncer aux captifs la liberté. C'est pas nouveau. Je vous ai déjà dit ça avant. Ésaïe vous avait dit, annoncé. Va lui dire au cas où il n'aurait pas vu que ce sont les choses qui se passent. C'était annoncé, ça se fait. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et il conclut par leur dire, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Parce que ceux qui vont voir dans ce que moi je suis venu établir, quelque chose qui n'est pas en cohésion avec ce qu'ils attendaient, oh, je crois que c'est leur bonheur qu'ils mettent entre parenthèses. Les disciples ont dû partir pour reprendre à Jean, mais lui, il a continué son enseignement à ceux qui étaient là. Jésus poursuit et il dit, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Dis bon, je vais vous clarifier les choses. Il demande donc à la foule, écoutez, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? C'est en parlant de Jean, parce que nous savons que les Écritures nous ont dit que Jean le Baptiste, c'est quelqu'un qui a une destinée particulière. Une grossesse âprement désirée par ses parents. Une conception miraculeuse, car ils étaient passés en âge. Des instructions particulières. Son père, le prophète Zacharie, a été rendu muet pour que rien ne sorte de sa bouche, qu'il soit une limite à ce que Dieu voulait faire avec Jean. Il a imposé à la maman un silence jusqu'au cinquième mois de grossesse. Il a donné des instructions précises de comment elle devait conduire cette grossesse. Jésus donc est dans cette phase et en train de demander à la foule, qui est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Celui qui criait là. Vous êtes allé voir un roseau agité par le vent? C'est comme ça que vous considérez Jean? Vous avez commencé même à aller voir Jean avant même de me connaître. Vous l'avez considéré comme un roseau agité par le vent? Vous l'avez pris pour un fou baladeur comme ça? Mais qu'êtes-vous allé voir? Qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Vous étiez en train d'aller voir un appareil bien habillé et tout? Mais vous avez rencontré quelqu'un habillé de peau de bête, pas rasé, pas coiffé, pas parfumé, qui n'avait rien de précieux, qui était loin de vos canons, les canons de votre bios, de vos choses terrestres là, qui animent votre ego. Vous voyez, les gens qui portent les habits précieux, ils sont dans les maisons du roi là, dans le monde. C'est pas lui que vous êtes allé voir dans le désert. Qu'êtes-vous donc allé voir? Est-ce que vous êtes allé voir un prophète? Si vous êtes allé voir un prophète, je vais donc vous dire que vous êtes allé voir un grand prophète. Un grand prophète. Car c'est de lui qu'il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. C'est de Jean qu'on parle, que la Bible parle, la parole parle, que vos prophètes ont annoncé ça. C'est de Jean. Et il continue. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. C'est moi qui vous dis. Sachez-le, sans habits précieux, sans habiter dans les maisons des rois, dans les palais, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'en a point de plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le plus grand de tous ceux qui sont nés de la femme. Jusqu'au moment où je vous parle. Je vous le dis. Et c'est là où ces choses se compliquent. Parce qu'après avoir expliqué cela, il dit cependant, que quelqu'un s'accorde sur cependant. Que quelqu'un dise avec moi, cependant. Cependant. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Mais il poursuit. N'oublions pas que nous sommes en train de parler de Matthieu 11, 12, qui parle du royaume des cieux. Il poursuit en disant, mais depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Ils ont annoncé les choses qui devaient se prendre. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Ici, Jésus-Christ dit quelque chose. Il vous rappelle qu'il y a eu des prophètes qui ont dit des choses. Il vous rappelle une période. Il dit depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent. C'est-à-dire l'instant où moi je suis devant vous en parler. Donc depuis Jean-Baptiste jusqu'à moi. Il vous a expliqué tout ce qu'il vous a expliqué. Le royaume des cieux est français. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Si vous voulez savoir tout ce qui s'est dit, tout ce que, vous avez les prophéties jusqu'à Jean-Baptiste. Si vous voulez comprendre quelque chose, vous comprenez. Ceux qui s'arrêtent à Jean-Baptiste, bon, ben vous vous arrêtez à Jean-Baptiste. Parce que vous ne voulez pas prendre la continuité de la prophétie. Quand la parole dit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi », on parle de qui? Si le messager, c'est Jean-Baptiste, si c'est l'Élie qui devait venir, c'est Jean-Baptiste, il préparait donc le chemin de qui? Puisque le message de Jean-Baptiste, c'est qu'il devait annoncer, et c'est ce qu'il vous annonce. Il vous dit le royaume de Dieu est là. Il arrive, celui qui va transformer tout ça. Et il vous dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entendre. Mes frères, mes sœurs, ayant des oreilles, entendons. Que le Saint-Esprit ouvre nos oreilles que nous entendons. Qu'il ouvre nos yeux que nous voyons la limite. Moi ici, je comprends qu'il s'agit d'un problème de conception du royaume des cieux. Il s'agit d'un problème de conception, de discernement du royaume des cieux. Il s'agit ici de que les gens doivent comprendre qu'avec Jean-Baptiste, le royaume des cieux était annoncé et qu'avec Christ, il démarre. Jean-Baptiste est grand. Il est venu annoncer quelque chose de grand, mais il n'est venu que l'annoncer. Il est venu annoncer la venue de quelqu'un qui allait établir ce royaume. Beaucoup de gens ont suivi Jean-Baptiste. Ils se sont baptisés. Jean-Baptiste lui-même le leur disait, repentez-vous. C'était un baptême de repentance pour être prêt à entrer dans ce qui devait arriver. Mais beaucoup se sont arrêtés au baptême de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste lui-même leur disait, race de vipères, où allez-vous? Vous venez faire semblant et si vous entrez dans l'eau, parce que vous avez peur des aiguillons. Vous ne voulez pas vous défaire de tout ce qui est de votre bios, mais vous voulez venir vous dissimuler. Et Jésus-Christ, quand il fait cela, il a parlé d'une génération de personnes. Il dit, tous ceux qui pensent avoir saisi le royaume de Dieu en restant dans le baptême de Jean-Baptiste, ils se trompent. Parce que ce n'est pas là-bas que ça se passe. C'est là-bas que ça s'annonce. Mais c'est en moi que ça se passe. C'est en moi que ça se passe. Et je vais tout le long vous dire comment on entre dans ce royaume-là. On ne le force pas. On y est invité. Et on fait ce qu'il y a à faire, on y entre. Simplement, on ne le force pas. On n'use pas de violence. Votre bios, vos forces, vos richesses et tout cela. Vous croyez vous être emparé de ce que Jean-Baptiste annonçait, mais vous vous trompez. Parce que ça se passe ici, en moi. Et ce qui est en moi, personne ne peut me ravir cela. Ce qui est dans les mains de mon Père, personne ne peut ravir. Donc, usez de force. Soyez des assaillants, des violents. Vous vous emparerez de vos simagrées. Vous vous emparerez que de cette fictivité. Parce que il parle comme ça. Parce que même Jean-Baptiste, on dirait, n'a pas discerné véritablement le royaume qu'il annonçait. Il a reconnu en Jésus celui qui devait venir. Mais il n'a pas discerné le royaume de Dieu. Il s'agit là vraiment de notre conception, de la conception du monde, de ce qu'est le royaume de Dieu. Le royaume des cieux n'a rien à voir avec nos choses terrestres. Le royaume des cieux n'a rien à voir avec notre bios. Le royaume des cieux est différent. Et c'est ce que Jésus voulait expliquer. Il prit le temps en enseignant de dire dans le royaume des cieux, au royaume des cieux. Voilà comment les choses se passent. Et c'était complètement différent des choses, de la façon dont le monde fonctionne. Tu tiens tellement à ce que tu possèdes. Jésus te dit, à l'instar du jeune qui était venu demander qu'est-ce qu'il peut encore faire pour mériter la vie éternelle. Il a dit, vends tes biens et suis-moi. Il est parti, lui. Il a dit, si on me dit d'aller à la synagogue, je vais. Si on me dit d'aimer les gens, ben je les aime, je ne les déteste pas. Si on me dit de payer la dîme, ben je paye. Mais dépouille-toi de toi-même et viens sur moi. Maintenant, il n'y a plus personne. Laisse tes propres forces. Laisse tes hauteurs. Qu'ils soient naturels ou acquis. Laisse-les là-bas. Deviens un enfant. Viens et suis-moi. C'est en moi que ça se passe. Laisse tes succès dans le monde. Et viens et suis-moi. On entend dans nos églises les personnes encore vraiment très pieux comme ça, religiosité, prônée, on est violent, on est ceci. Ah non, hein, les gens du monde, personne ne peut prendre ce qui est à moi, personne ne peut prendre mon argent. Ah, telle personne m'a volé, on ne me vole pas moi, je vais l'amener au tribunal, je vais aller loin, je vais, etc. Je vais appeler la police. Ah oui, mon Dieu. Ah non, comment hein, ils se dressent devant moi, hein, ils m'insultent, je vais. Qui lui a dit qu'il peut insulter l'enfant de Dieu? Voilà la conception du royaume de Dieu que on a encore aujourd'hui, mes frères et mes sœurs. Oh Dieu, le royaume de Dieu est puissant. Le royaume de Dieu est grand. Oh, nous devons être prospères. Nous devons être prospères. Les gens du monde roulent dans les grosses voitures. Moi, j'en aurai trois. Parce que je suis béni par l'Éternel. Il a... Tout lui appartient. Tout lui appartient. Ah, oui. Je suis héritier. De quel royaume? Du monde ou du royaume de Dieu? Et c'est ça que Jésus veut dire. Quelle conception as-tu du royaume de Dieu? Quelle conception as-tu du royaume des cieux? Penses-tu au royaume où Jésus te dit que c'est le royaume dans lequel? Si quelqu'un te prend ta chemise, donne-lui ton manteau. Est-ce ce royaume? Ou celui où tu dis, comme je suis béni, je vais avoir 15 manteaux et malheur à celui qui vient en prendre un? Ou celui où tu dis, comme j'ai 15 manteaux, oh vraiment celui-ci est dépassé de mode, donc bon, je vais offrir aux voisins là. Tenez, donnez aux pauvres, ce sera bien. C'est de ce royaume? C'est cette conception du royaume que tu as? Ou celui dans lequel Jésus-Christ te dit, ou l'Éternel te dit, je veux des adorateurs en esprit et en vérité? Ou celui de Paul nous enseigne, que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans le manque, son amour pour Dieu ne change pas. Il est le même. Est-ce cette conception du royaume? Ou la conception du royaume qui veut seulement être vu et s'exprimer par les mêmes valeurs que dans le monde? Dieu n'a pas besoin de ton bios. Le royaume de Dieu se suffit à lui-même. Il a dit, dépouille-toi de cela. Prends ta croix et suis-moi. Dépouille-toi du verbe. Quelle conception du royaume as-tu? As-tu la conception de Jésus qui dit, bénis ceux qui te maudissent, prie pour tes ennemis, partage ton pain avec ceux qui ont faim, pardonne et demande pardon. As-tu cette conception du royaume? Ou celle qui prône puissance, gloire, domination? Quelle conception du royaume as-tu? Telle de l'humilité ou de la suffisance? Celle de Jésus-Christ qui dit que c'est le maître qui doit servir dans son royaume, c'est comme ça. Mais ça n'empêche pas qu'il soit le maître. Il lave les pieds. Où es-tu dans la conception du monde qui pense que le royaume de Dieu fait des gagneurs? Pourquoi est-ce que tout le monde doit me servir? Parce que je suis la tête et non la queue. Pourquoi me plier? Es-tu de cela? Il me semble que c'est de ça que Jésus-Christ veut attirer l'attention de la foule ce jour-là. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, ce que mon œil a vu, ce que les gens veulent entrer dans le royaume de Dieu avec leur force. Ils pensent qu'ils peuvent s'emparer du royaume de Dieu. Ils usent de violence. Jusqu'à présent, ils ont fait ça comme ça. Mais avec moi, ça change. Avec moi, Jésus-Christ, c'est différent. Les mesures sont différentes. Personne ne s'en empare. J'ouvre la porte. J'invite les gens à entrer. Et celui qui veut entrer, il entre. Mais il se dépouille d'abord de son bios. Il se dépouille de ses forces. Il se dépouille. Parce que figurez-vous une chose. Lorsque nous poursuivons Matthieu 11, Jésus continue à parler. Parler aux incrédules. Parler aux gens qui ont une conception bizarre. Parler aux gens qui ne veulent pas voir les dans sa meilleure dimension, les manifestations, le signe du royaume de Dieu apparaît. Il leur dit, même Sodome et Gomorrhe, au jour du jugement, seront jugés moins durement que vous. À partir du verset 25 jusqu'au verset 30, Jésus reste dans la continuité, parce que depuis qu'il a commencé à parler à la foule, personne ne l'a interrompu. Donc il est sur une continuité de pensée. Il déroule. Il arrive au verset 25. Il dit en ce temps, Jésus prit la parole et dit, et il prit en lui-même, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu as révélé aux enfants. » Alléluia. Parce que les enfants maintenant vont entrer en moi, Jésus-Christ. Jusqu'à présent, même depuis qu'on a commencé à annoncer le royaume de Dieu, les sages ont cru qu'ils pouvaient faire quelque chose, qu'ils pouvaient s'emparer de ça avec leur bios, en usant de la force, qu'ils pouvaient confisquer le royaume de Dieu. Mais ils se sont trompés, ils se sont gourés. En allant même mettre Jean en prison, Ces personnes croyaient qu'elles pouvaient confisquer, même éteindre le royaume de Dieu. Mais ils se gourrent, parce que c'est à moi que ça se passe. Jésus dit, c'est ainsi que ça se passe. Tu leur as caché et tu viens révéler la connaissance aux enfants de Dieu. Et il continue, oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Père éternel, moi aussi je te loue de ce qui t'a plu. Oh Père, par ton esprit, que tu m'éclaires en ce jour. Parce qu'il t'a plu. Oh, qu'en ce jour, nous partageons ce message. Je te loue, oh Père, parce que par ton esprit, Seigneur, tu répandras ce message. Qu'il puisse enrichir, Seigneur, ceux qui doivent être enrichis par lui. Au nom puissant de Jésus. Jésus continue et dit au verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Merci, ô Jésus. Merci de me révéler le Père. Merci de me révéler le Père. Merci, Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de t'être révélé à moi. Et merci de me révéler le Père. Alléluia. En ce temps-là, les gens n'avaient pas encore le discernement de la véritable dimension de Jésus-Christ. Ils le découvraient. Ils étaient dans l'émerveillement, dans l'étonnement de qui il était. Mais le meilleur était arrivé. Parce que le royaume des cieux n'était qu'en marche. Il n'était même pas encore véritablement établi. Il était en construction. Jean-Baptiste l'a annoncé. Jésus est venu le faire exister. Il était encore en bâtissement. Parce que le clou du royaume des cieux, la porte ouverte, c'est avec la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. À ce moment, ça devait être l'affluence pour entrer. Donc, tous ceux qui ont essayé d'entrer avant le royaume de Dieu là, c'est des voleurs. Des voleurs. Parce que Jésus-Christ lui-même nous dit dans la parole, je connais mes brebis. Je suis le berger. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Le bon berger prend soin de ses brebis. Je ne suis pas un mercenaire. Ce qui arrive là, c'est des voleurs. Tous ceux qui croyaient déjà être dans le royaume de Dieu là, avec leur bios. Vous êtes dans l'erreur. C'est en Jésus-Christ que ça se passe. C'est lui le bon berger. Par sa mort et sa résurrection, il établit le royaume. Il ouvre la porte. Passe par la porte des brebis. Passe et trouve les pâturages. Il est le bon berger. Alléluia. Rabashik. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oh là là. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Dit Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Toutes ces explications ont été déclenchées par les disciples de Jean qui ont été envoyés à Jésus. Et quand ils ont pris la réponse de Jésus, ils sont repartis tous vers Jean. Et c'est à leur instar, ce départ, que Jésus parle. Tous ceux qui se trompent de la porte, tous ceux qui se trompent du royaume, se perdent en route. Fussent-ils Jean le Baptiste, le royaume des cieux n'est pas encore établi. Ça se passe en Jésus-Christ. Ça se passe en Jésus-Christ. Et il finit son propos en disant, vous savez, venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi sans votre bios. Venez à moi dans l'apparence même d'être faible. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos dans vos âmes, pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alléluia Jésus-Christ. Merci pour ce fardeau léger que tu me donnes. Je le prends, Seigneur Jésus, avec joie. Je le prends avec empressement. Alléluia. Je dépose le mien tous les jours à tes pieds. Oh, parce que tu as déjà réglé toutes choses. Seigneur Jésus, merci. Donne-moi ton repos. Je veux vivre dans le repos de mon Seigneur Jésus. Je veux prendre ton joug sur moi. Alléluia. Je veux recevoir de tes instructions. Oh Rabbi, mets en moi ce cœur humble et doux. Fais en moi ce bon cœur que tu as. Alléluia. et conduis-moi dans ton royaume pour la gloire de l'Éternel, Dieu notre Père, et que ton nom soit glorifié en toutes choses. Oh, merci Saint-Esprit pour ce message en ce jour. Merci Esprit de Dieu d'avoir conduit ce message. Raboshik, que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent, touchent leurs oreilles, touchent leur entendement, qu'ils saisissent la quintessence de cette révélation en ce jour, au nom puissant de Jésus. Merci, merci, merci Saint-Esprit. Mes bien-aimés, nous arrivons au terme de ce message. Mon cœur est dans la joie et j'espère que ça vous procurera autant de vie, autant de joie qu'à moi-même. Oh Seigneur, merci. Soyez bénis, demeurez bénis en notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que le sang de Jésus sur vous tous. Alléluia. Donnons gloire à l'Éternel Dieu notre Père. Et que le nom de Jésus soit constamment glorifié au travers de ce que nous faisons, au travers de nos actes, au travers de ce que nous reflétons dans le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Shalom. À la prochaine sur www.héritagedurayaume.com. Amen.